Et cette musique, tu la reconnais?
Ah oui, bien sûr, c'est la Citroën C3 Music Touch.
Bien!
Profitez du meilleur de la musique dans votre voiture avec la série spéciale Citroën Music Touch. En janvier, bénéficiez de 5 500 € d'avantages clients sur Citroën C3 IHDI 90 Music Touch avec une tablette 10 pouces Samsung Galaxy Tab 2 et un an de musique. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation.
Citroën, créative technologie.
Offre non cumulable sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans. Bonus écologique de 200 € inclus dans la limite des stocks disponibles. Détails sur citroëncarstore.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Chaque jour à cette heure-ci, Franck Ferrand nous replonge au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et aujourd'hui, c'est à Vienne, en Autriche, qu'il a choisi de nous emmener. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. La Vienne en question est celle de 1900. Incroyable capitale où explosent en même temps les génies si divers de Klimt et de Kokoschka, de Freud et de Schnitzler, de Stefan Zweig et de Gustav Mahler. L'homme dont nous allons parler aurait pu devenir leur empereur à tous s'il n'était tombé sous les balles d'un assassin à Sarajevo un certain 28 juin 1914.
Et l'homme en question, c'est donc l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie.
En effet, François Ferdinand, devenu par le jeu des circonstances l'héritier officiel de l'inaltérable François Joseph. Alors, qui était cet archiduc? Quels étaient son caractère, ses idées, forces, ses projets? Sa mort brutale est-elle la véritable cause de la Première Guerre mondiale? On peut dire qu'on va bientôt parler beaucoup de François Ferdinand, bien sûr. Et bien, à la veille du grand centenaire qui se profil, voici quelques-unes des questions que nous allons poser en compagnie de son biographe.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
(1863, 1889, 1896, 1914) Quatre dates pour résumer le sort d'un prince énergique et droit, certes, mais en même temps complexe et ambigu, pour résumer le destin d'un personnage qui, il y a un siècle exactement, figurait parmi les figures montantes d'une nouvelle génération de souverains. Selon les points de vue, la crainte ou l'espoir de l'Autriche-Hongrie, cette immense mosaïque de peuples, l'Autriche-Hongrie, de mosaïque de culture et d'intérêts, tout cela réuni sous le vaste manteau des Habsbourg. 1863 d'abord, c'est la naissance à Graz de cet archiduc, un archiduc parmi tant d'autres, premier fils du frère cadet de l'empereur François-Joseph. Pas grand-chose à en dire a priori, quoique le contexte familial de cet enfant, vous allez le voir, est loin d'être dépourvu d'intérêt. On va en parler dans un instant. 1889 ensuite, le 5 février, c'est l'incroyable nouvelle de la mort brutale au relais de chasse de Mayerling de l'archiduc héritier Rodolphe, vous savez, le fils chéri de Sissi. Rodolphe mort au chevet de sa très jeune maîtresse Marie Vetsera. Est-ce qu'il s'est suicidé après avoir tué Marie, comme le prétendra la version officielle, ou plus exactement la version admise? Ou bien s'est-il donné la mort après le décès accidentel de sa compagne, à moins qu'il n'ait été victime d'un complot des Allemands ou encore des Français, comme l'affirme avec force et quelques arguments troublants, il faut bien le dire, les partisans de ces différentes thèses. Le mystère reste épais. Ce qui est sûr, c'est que la succession directe de François-Joseph a volé en éclats ce jour-là. Sur le papier, c'est donc le premier frère de l'empereur, l'archiduc Charles-Louis, qui devient son héritier officiel. Mais la personnalité même de cet héritier fait que tout de suite, les regards vont se porter sur son propre fils, l'archiduc François-Ferdinand. Celui donc qui nous intéresse. Donc, 1863-89, 1896, la mort de son père fait à ce moment-là de François Ferdinand l'héritier officiel du régime, le Kronprinz. Du reste, l'empereur a déjà 65 ans bon poids. C'est dire si tout le monde observe de près les moindres faits et gestes de cet archiduc de 25 ans, à commencer par ses prises de position, notamment en matière de politique étrangère. Là aussi, on va y venir. Mais ce n'est peut-être pas ce qui intéresse le plus l'opinion de l'époque. Car en cette année 1896, celle de la mort de son père, François Ferdinand décide aussi de se marier. mariés. Or, le moins qu'on puisse dire est qu'il ne respecte pas les codes établis alors pour les princes de son rang. Il choisit en effet pour épouse une simple aristocrate tchèque, Sophie Chotek, ce que l'opinion, la cour et avant tout l'empereur lui-même considère comme une terrible mésalliance. François-Joseph obligera finalement son neveu à se contenter d'un mariage morganatique, c'est-à-dire en dehors de la famille impériale, et un mariage dépourvu de toute conséquence dynastique pour les enfants à naître. Enfin, bien sûr, 1914, cette année-là, tout le monde s'en souvient, hélas, au cours d'un voyage officiel en Bosnie-Herzégovine, le fameux couple, qui fêtait d'ailleurs ce 28 juin son 14e anniversaire de mariage, le ménage formé par François Ferdinand et Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg, est assassiné à Sarajevo par un jeune nationaliste serbe, Gavrilo Princip. C'est l'étincelle qui va mettre le feu à la poudrière, c'est l'événement qui, contre toute attente, fera basculer l'Europe et toute une partie du monde dans la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, en général, on cite beaucoup plus François Ferdinand pour cette mort aux conséquences incalculables que pour sa vie elle-même. Eh bien, aujourd'hui, on va faire le contraire. Nous allons nous intéresser aux 51 ans de cette existence souvent agitée, parfois heureuse, toujours contrainte, un demi-siècle de vie marqué par la force d'un grand caractère et par le regard assez tranché qu'il n'aura cessé de porter sur le monde. Alors, nous sommes à la radio, il faut donc que je vous donne du personnage une description physique. Si vous n'avez pas à l'esprit sa physionomie, imaginez un peu l'image qu'on se fait du gendarme Belle Époque. Forte stature, sanguine à l'évidence, une énorme bacchante à pointe redressée qui barre un visage plein, pour ne pas dire légèrement replet, sur une mâchoire carrée, les yeux très clairs, vaguement globuleux. On ne peut pas dire que l'archiduc ait été beau, ça non, mais dans l'ensemble, il portait beau et il incarnait jusqu'à la quintessence cette robustesse, cette énergie, ce cran qui font tout le sel des Habsbourg.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et Franck, vous recevez aujourd'hui sur Europe 1 Jean-Paul Bled, qui est professeur émérite à l'université de Paris 4 Sorbonne, spécialiste des Habsbourg, de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne, auteur de la biographie François Ferdinand d'Autriche chez Talendier.
Bonjour Jean-Paul Bled. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce François Ferdinand d'Autriche que vous décrivez si finement dans cette belle biographie, tout en nuances. Alors on va essayer, évidemment nous avons beaucoup moins de temps et de place que vous n'en avez eu à l'écrit, mais nous allons essayer de garder un peu ce sens-là de la nuance. Alors, le personnage, évidemment, naît parmi la cohorte des archiducs autrichiens. Il faut dire que les Habsbourg ont toujours été prolifiques. Il est le fils, le premier fils du frère cadet de l'empereur.
C'est cela, de Charles-Louis et de l'archiduchesse Maria Annunziata, qui est une Bourbon de Naples, ce qui a son importance. Parce que il en hérite plusieurs choses. Il en hérite son hostilité radicale, pour ne pas dire sa haine, de l'Italie. Mmh. De l'Italie qui a fait son unité, contre les monarchies en place. Il en hérite un catholicisme intransigeant, ce qui fait que certains l'accuseront de bigoterie. Et puis, il en hérite aussi une propension à la tuberculose. Mmh. Puisque...
Qui aura alors là des conséquences importantes sur sa
absolument.
Jeunesse.
Et sa mère va mourir de la tuberculose.
Mmh. Il est, est-ce qu'on peut dire qu'il est d'emblée un jeune homme assez énergique, en fait, hein? Est-ce qu'il se distingue sur ce qu'il tranche, en quelque sorte, sur le lot de tous ses
Alors, au tout début... Je dis le tout début, ça veut dire la période de son éducation. Mmh. Je ne parlerai pas nécessairement d'énergie. En revanche, il apparaît un trait que l'on va retrouver évidemment par la suite. C'est sa grande suspicion, irritabilité. Il remarque par exemple que ses précepteurs... croit-il, marque une préférence pour son frère cadet, Otto, et il le prend très très mal.
On a l'impression que toute sa vie va se dérouler sous cette sorte d'inquiétude et de susceptibilité. Il a toujours peur que les autres soient mieux traités que lui, en quelque sorte. Oui. Ce qui parfois sera le cas, on va le voir dans un instant.
Le cas, hein. Donc une méfiance qui devient véritablement une seconde nature.
Il faut dire que son cousin germain Rodolphe est brillantissime, lui, bien entendu. Hein.
Oui, oui. Alors, ils ont de bonnes relations. qui ne vont peut-être pas d'ailleurs sur le fond des choses, mais en revanche, ils sont l'un et l'autre de grands chasseurs sous l'Éternel. Et lorsqu'on dépouille les archives à Vienne, on se rend
compte... Ils ont des tableaux de chasse effroyables.
Ah oui, ça, si on compare par exemple le tableau de chasse de François-Joseph, qui est impressionnant, mais avec celui de François-Ferdinand, il n'y a pas de commune mesure. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que François-Ferdinand est un tueur.
C'est ça.
Comme en tant que chasseur, il est un tueur. Et d'ailleurs, ça se vérifie lorsqu'on visite, par exemple, sa résidence principale en dehors de Vienne, qui est le château de Konopicht en Bohême, donc dans le sud de la République tchèque. Eh bien, on voit que les murs sont tapissés de trophées,
de
ce qui n'était pas inhabituel. Mais là, il n'y a pratiquement pas d'espace entre les trophées.
Et d'ailleurs, à Konopice, il y a comme une sorte d'atmosphère assez inquiétante, il faut dire.
Oui.
Je ne sais pas si c'est depuis ou si c'était déjà le cas du temps de François Ferdinand, mais enfin, c'est un endroit qu'on ne visite pas impunément.
Tout à fait.
Alors, vous nous avez dit qu'il était sujet à la tuberculose, et c'est pour le soigner qu'on va le faire voyager, très jeune en vérité.
Oui, alors il va entreprend deux voyages. Le premier qui est un tour du monde. Qui dure 10 mois, au cours duquel d'ailleurs il va beaucoup chasser, entre autres. On croit lorsqu'il revient qu'il est guéri, et puis au bout de quelques mois, on se rend compte qu'il n'en est rien. Et là, les choses prennent une tournure inquiétante, parce que on peut dire que le pronostic vital est engagé. Donc il faut prendre des mesures draconiennes qu'il supporte assez mal.
C'est-à-dire que là, on va l'éloigner vraiment.
Ah oui, on l'éloigne. On l'éloigne. D'abord, il doit quitter l'armée, bien sûr, pour un temps déterminé. Et puis, non seulement il va quitter l'armée, mais il est amené à quitter la monarchie. Il va voyager vers des contrées chaudes. C'est par exemple l'Égypte. Ça sera aussi, on le retrouvera à Alger, on le retrouvera en Corse, en Espagne. Bien. Et cela dure 2 ans. Alors, il est accompagné, évidemment, d'un médecin qui le suit de très près.
Il y a toute une petite suite, évidemment, qu'il suit.
Bien sûr.
Ça n'en est quand même pas moins un isolement pour lui.
Oui.
Et comme vous nous avez dit qu'il a justement ce tempérament à se méfier, à craindre qu'on ne veuille justement le reléguer ou l'éloigner, tout ça évidemment va progresser en lui et va alimenter cette espèce de paranoïa, disons si on peut dire.
Enfin, et notamment parce que pendant son absence, et comme je le disais, le pronostic vital est engagé, certains en viennent à penser qu'en réalité, l'héritier du trône deviendra son frère cadet, par conséquent Otto. Et François-Joseph n'entre pas, je ne crois pas en tout cas, dans ce type de comportement ou d'intrigue, mais il se trouve qu'il va faire le cadeau d'un très beau palais, le palais d'Augarten, à Otto, et tout de suite, François-Ferdinand,
Il voit la confirmation de
ses inquiétudes.
Alors, nous revenons dans un instant sur cette jeunesse et sur le changement radical dans la vie de ce jeune homme, c'est-à-dire le moment où meurt le véritable principal héritier du trône, Rodolphe.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Sur Europe, un des maîtres chanteurs de Nuremberg composé par Richard Wagner, Franck.
1889 marque dans l'histoire autrichienne donc une très importante césure puisque c'est la mort à Mayerling de l'archiduc héritier Rodolphe. Et alors, attention, ce n'est pas François Ferdinand qui devient à ce moment-là l'héritier de l'empereur, c'est son père,
oui,
Charles-Louis,
le frère cadet
de l'empereur.
Voilà.
Simplement, cet archiduc, Charles-Louis, n'a pas tellement l'étoffe d'un héritier, disons-le, à aucun point de vue du reste.
Oui, et il n'en a pas le souhait non plus.
Oui.
C'est un personnage assez prosaïque, en quelque sorte. Il aime, par exemple, pêcher à la ligne, ce qui n'est pas très courant chez les Habsbourg.
C'est tout à son honneur.
C'est tout à son honneur, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Il y a des millions de pêcheurs à la ligne dans ce pays. Il a, ce qui est aussi d'ailleurs d'une certaine manière positif, il s'intéresse beaucoup à l'art. Il est souvent chargé par François Joseph d'inaugurer des expositions, mais il ne s'intéresse pas du tout à la politique, à la vie politique, il ne s'y intéresse pas. Et donc évidemment, ça ne le prédestine pas à monter sur le trône.
Et évidemment, on se dit que celui qui pourrait succéder à François Joseph, donc en 89, François Joseph a 60, il est né en 30,
hein.
Il a 69 ans.
Non, il a 59
ans, voilà. 59 ans. On fait de l'arithmétique.
1830.
Donc, puisqu'il est en 1830. Quant à François Ferdinand, lui, comme il est né en 1863, il a 25 ans à ce moment-là.
Oui.
Et évidemment, il a l'avenir devant lui. Et donc, on s'intéresse à lui, on s'intéresse à ce qu'il pense. Ça va devenir encore plus important en 1896, quand son père meurt. Alors, d'ailleurs, la mort de son père est tout à fait dans l'esprit de sa vie, si je puis dire. Il meurt de la fièvre typhoïde au cours d'un voyage en Terre Sainte.
C'est cela. La famille avait rejoint François Ferdinand, qui se trouvait en Égypte. Et puis, lorsqu'ils se séparent, Charles-Louis se rend en Palestine et il boit de l'eau du Jourdain, et puis avec la conséquence que vous avez dite.
Alors, cette mort va placer officiellement François Ferdinand à la place de l'héritier du trône. Vis-à-vis de son oncle, ça pose un problème, évidemment. On ne peut pas dire que François Joseph ait tellement d'affinité pour ce neveu.
Non, évidemment, et lorsqu'il le voit, il ne peut pas ne pas penser à Rodolphe.
Mais c'est ça.
Parce qu'au fond, François Ferdinand a pris la place de Rodolphe. Évidemment, il n'y est strictement pour rien, cela va de soi, mais il n'empêche que François Joseph a naturellement, spontanément, a cette l'image de Rodolphe devant lui.
Et puis, disons-le, François Ferdinand n'est pas marié. Et ça, pour un héritier du trône, c'est un problème, évidemment, pour la continuité dynastique. Alors, il va se marier dès la mort de son père, enfin, très peu de temps après. Mais alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne choisit pas la bonne épouse, aux yeux de la cour et aux yeux de l'empereur. Parce qu'elle est tout à fait charmante, cette Sophie Chotek, à tout point de vue. Elle est un petit peu âgée, peut-être, pas pour le rôle, si je puis dire, non ?
Bah, écoutez, elle aura trois enfants.
Oui,
donc,
bien sûr.
Donc, elle a rempli, si je peux dire, sa fonction génitrice, qui était évidemment un point fondamental pour la dynastie, pour une dynastie. Mais le problème est que, si l'on s'en tient au statut de famille, eh bien, elle n'appartient pas à une famille avec laquelle Habsbourg peut contracter une alliance matrimoniale.
Ce qui est terrible, c'est que l'oncle va imposer au neveu un mariage morganatique.
Oui.
C'est une sorte... Alors là, lui qui est un peu déjà susceptible, et évidemment, il va le vivre très mal.
Bien sûr.
D'ailleurs, il va falloir plusieurs mois. Hein. C'est seulement en 1900 que l'empereur finit par fléchir et accepte ce mariage.
28 juin.
Et d'ailleurs, le mariage, il va avoir lieu le 28 juin, c'est-à-dire exactement le même jour que aura lieu... 14 ans plus tard, l'attentat de Sarajevo, hein, cet attentat de 1914 qui va plonger l'Europe dans la Première Guerre mondiale. Alors, quel a été pendant cette période, hein, ça a quand même duré une quinzaine d'années, quel a été le rôle politique, quel a été le positionnement de cet archiduc François Ferdinand ? C'est ce que nous voyons avec vous dans un instant, Jean-Paul Bled, et puis aussitôt après, je vous raconterai cet attentat de Sarajevo.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui de François Ferdinand, cet héritier du trône d'Autriche-Hongrie dont la mort embrase le monde, toujours en excellente compagnie, celle de Jean-Paul Bled, Franck.
Oui, François Ferdinand, donc assassiné le 28 juin 1914, mais avant cela, il ne faut pas oublier que ces années 1900, hein, 1902, 1905, ce sont des années de grande crise internationale, crise politique, une crise constamment attisée par le bellicisme plus ou moins revendiqué du Kaiser d'Allemagne, Guillaume II, évidemment. On peut dire que le Kaiser de Vienne, lui, François Joseph, est beaucoup plus pacifique, évidemment, il est plus en retrait. Mais quelle est la position de son neveu ? Quelle est la position de l'héritier du trône ? C'est ça qui est intéressant. Vis-à-vis de l'Allemagne, notamment, il est assez ouvert, disons.
Alors, comme tout Habsbourg, il souffre de ce que la Prusse a vaincu l'Autriche en 1866 à Dova et que l'Autriche, de ce fait, était expulsée d'Allemagne. Il en souffre. Mais en même temps, il est réaliste et il admet l'alliance qui a été conclue en 1919 entre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne et qui est devenue le pivot de la politique extérieure de la monarchie. Donc il ne la remet pas en cause. La seule chose qu'il souhaiterait, mais en fait c'est totalement irréalisable, c'est de revenir à une alliance à trois, c'est-à-dire en y adjoignant la Russie. Et c'est totalement impossible
à l'époque. Ce que vous montrez très bien dans votre livre, c'est que cet homme, ce François Ferdinand, cet héritier de François-Joseph, qui a une image relativement belliciste, relativement, pour pas dire un peu activiste, en fait, c'est un homme de paix, dites-vous.
Oui, tout à fait. Alors, il y a une image, bien sûr, qui a été forgée autour de François Ferdinand pendant la guerre, dans les pays de l'Entente, et puis qui s'est maintenu au-delà de la guerre. En réalité, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, non pas qu'il soit pacifiste, idéologiquement pacifiste, mais il considère que la monarchie austro-hongroise est un corps trop fragile pour pouvoir être engagé dans un conflit militaire. Et de ce fait, alors qu'il y a un parti de la guerre à Vienne, parti qui est dominé par un certain nombre de militaires,
oui, bien sûr, hein.
lui, il ne cesse de prôner la paix.
Et il calme le jeu, en fait.
Il calme le jeu. Et on peut ajouter que en adoptant cette attitude, il est en accord avec François-Joseph. Il n'est pas d'accord avec François-Joseph sur bien des points,
alors, notamment celui-ci. Il n'est pas d'accord avec son oncle, avec l'empereur, sur la politique intérieure, notamment.
Oui.
Il est pour une réforme assez profonde
oui.
de la monarchie austro-hongroise.
Sa grande préoccupation vient du compromis qui a été conclu en 1867 avec la Hongrie. Mmh. Et il considère que la part a été faite trop belle à la Hongrie, qu'en réalité la Hongrie ne cesse de saper l'unité de la monarchie et que par conséquent, le jour où il monterait sur le trône, eh bien, il faudrait soit abroger totalement ce compromis, soit le vider de sa substance, ce qui peut augurer d'un conflit avec la Hongrie.
Est-ce que ces réserves sur la politique générale de son oncle ont un rapport avec le voyage qu'il va faire en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, justement, ce voyage qui va lui coûter la vie ?
Non, parce que là, je disais, il y a un accord entre les deux hommes. Ce voyage est en rapport avec des manœuvres militaires qui sont organisées à proximité de Sarajevo, à une vingtaine de kilomètres de Sarajevo. Et ces manœuvres militaires ont reçu l'accord de François-Joseph. Il n'y a donc pas, sur ce point, de désaccord entre les deux hommes.
Alors justement, qu'est allé faire François Ferdinand en Bosnie-Herzégovine, vous venez de nous le dire, ça va lui coûter la vie. Ça va coûter la vie à sa femme aussi, qui l'accompagne,
également.
Sophie Chotek. Nous revivons dans un instant ces moments dramatiques.
Extrait de la 9e symphonie composée par Gustav Mahler et place maintenant au récit sur Europe 1. Franck, vous l'avez dit, consacré aujourd'hui à l'attentat de Sarajevo.
Alors à Vienne, au musée historique de l'armée, vous pouvez aller voir l'uniforme que portait l'archiduc François Ferdinand ce fameux jour à Sarajevo. C'est une tunique ornée d'étoiles au col qui est entièrement tachée de sang et ça préfigure évidemment tous ces uniformes de tant de pays qui, dans les années qui vont suivre, seront ensanglantés à leur tour. Et vous verrez aussi la belle voiture de tourisme décapotable où avait pris place François Ferdinand et Sophie. Il s'agit en effet moins d'une voiture de parade que de voyage, comme le prouve son porte-bagage arrière. Ce double phaéton vert foncé est une Graf und Stift, autant dire, c'est plus facile, la Rolls-Royce autrichienne, un torpedo de 1910 au capot légèrement incliné, un témoin dérisoire en vérité de cet événement qui, dans un premier temps, a pu passer pour un fait divers princier, mais qui s'est révélé être l'un des tournants de l'histoire humaine. On est donc le 28 juin 1914 dans cette petite ville de Sarajevo qu'il faut imaginer un peu coincée au fin fond des montagnes. Il y a, alors, on l'a dit, l'archiduc vient assister à de grandes manœuvres militaires, les grandes manœuvres militaires d'été, dans cette Bosnie-Herzégovine qui a été annexée définitivement assez récemment, c'était en 1908 seulement, et qui est peuplée, ne l'oublions pas, en grande majorité de Slaves, à une époque où, évidemment, la Serbie, toute proche, réclame les Slaves. Elle voudrait créer un grand État des Slaves du Sud, la fameuse Yougoslavie, donc un climat explosif. Il y a eu des rumeurs d'attentats, de complots, etc. Et l'archiduc lui-même a eu de sombres pressentiments. On dit que dans le train qui l'amenait jusqu'à Trieste, parce qu'à Trieste, ensuite, il va prendre un bateau pour aller jusqu'en Bosnie, dans le train qui l'amenait à Trieste, il y a eu un moment, vous savez, comme ça arrivait souvent dans ces trains à l'époque, une coupure d'électricité, le wagon est tombé dans le noir et il a crié « Mais que se passe-t-il ? On dirait une tombe, mais allumez des bougies, tout de suite, je vous en supplie, on étouffe ici, je n'en peux plus. » Grande nervosité, comme s'il y avait peut-être un signe prémonitoire, là, une grande nervosité chez cet archiduc François Ferdinand. Le 27 juin au soir, il préside un dîner protocolaire et il porte un toast à cette Bosnie. « J'aime sincèrement la Bosnie et son peuple m'inspire la plus grande estime », dit-il. Le lendemain, il va être tué. Et d'ailleurs, sa femme, elle aussi, porte un toast. Elle dit « Vous êtes vraiment tous très gentils. Je n'oublierai jamais votre charmant accueil, cher Bosniaque », dit-elle. À la même heure, des conjurés sont en train de préparer les attentats. Je dis « les attentats » parce que il y a tout un petit groupe de lycéens qui ont 18 et 19 ans, sont des révolutionnaires passionnés. Il y a Gavrilo Princip, bien sûr, mais il y en a trois autres. Grabej, Chabrinovic et puis Ilic, qui sont tous membres de cette main noire, animée en sous-main par les Serbes, bien entendu. Ils connaissent le programme officiel de la visite. Ils savent exactement où ils vont pouvoir trouver l'archiduc et son épouse le lendemain, le 28 juin. Et d'ailleurs, bien entendu, ils vont se poster sur le trajet. Alors il y en a un, Chabrinovic, qui a une bombe, Grabej lui a deux plus petites bombes, et puis Princip porte un gros revolver qu'il cache derrière un chapeau qu'il porte comme ça, qu'il met sur sa poitrine. Les autorités sont inquiètes sur place, il faut bien le dire. On se doute qu'il va y avoir du grabuge, si je puis dire. Mais en vérité, la sécurité est défaillante. Et pourquoi est-ce qu'elle est défaillante? Eh bien, nous venons de le dire, l'archiduc a fait un mariage morganatique. Son épouse, la duchesse de... Bien qu'elle porte ce titre de duchesse de Hohenberg, Sophie Chotek ne fait pas partie de la famille impériale et on ne prévoit pas sur le passage du couple princier les détachements militaires habituels. Ce qui fait que sur les 50 000 hommes qui sont postés, les 50 000 sujets d'Autriche-Hongrie qui sont postés en Bosnie, on ne délègue pour cette visite spécifique à Sarajevo que 120 agents de police. C'est évidemment insuffisant et on va voir les conséquences terribles que ça va avoir.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous sommes toujours, Franck, en compagnie de votre invité Jean-Paul Bled, auteur de la biographie François Ferdinand d'Autriche chez Talendier.
Et oui, nous sommes donc ce 28 juin 1914 à Sarajevo. Imaginez cette voiture dont je vous parlais tout à l'heure, qui existe toujours, qui se ferait difficilement un passage au milieu d'une foule enthousiaste. Et évidemment, on envoie des fleurs dans la voiture. La voiture a été décapotée, donc les fleurs tombent dans la voiture. Et à un moment, à 10h25 ce matin-là, ce n'est pas une fleur qui tombe, c'est un objet, c'est une bombe, c'est la fameuse bombe qu'a jetée notre Chabrinovic, ce lycéen dont je vous parlais. Alors l'archiduc a un très bon réflexe, il rattrape la bombe, il la jette à l'extérieur, elle explose néanmoins, mais elle va faire, elle ne blessera que très très légèrement la duchesse de Hohenberg. En revanche, elle va faire des victimes et notamment elle blesse le colonel Merizzi qui est de l'état-major du prince. Donc François Ferdinand fait arrêter la voiture, il y a tout un moment là de grand flottement. On arrête, le jeteur de bombes a réussi à s'échapper, il a sauté dans la rivière pour essayer d'échapper à la foule. Finalement, on le rattrape, on l'arrête, il est à moitié lynché sur le trajet de la prison. Et quand il arrive à l'hôtel de ville avec son épouse, François Ferdinand est furieux. C'est un véritable savon qu'il passe au maire et à ses conseillers. Le maire lit néanmoins un peu timidement l'allocution officielle qui avait été prévue. Tout ça est un peu compliqué, bien entendu. La cérémonie est bâclé, disons-le. Le préfet de police fait un rapport. mort. Et à ce moment-là, on se demande, la question est de savoir, est-ce qu'on file directement au château de Connac comme c'était prévu, ou est-ce qu'on continue la visite en ville? Finalement, on adopte une sorte de demi-mesure. On décide qu'on va regagner Connac en traversant néanmoins la foule pour gagner les quais. Le problème, c'est que le chauffeur qui pilote la voiture du prince et de l'archiduc et de la duchesse de Hohenberg, le chauffeur va se tromper. Au lieu de prendre directement par les quais, il se lance dans une petite rue, la rue François-Joseph, ça ne s'invente pas, qui est justement très encombrée. Et ça, c'est évidemment se jeter dans la gueule du loup. Les autres conjurés, n'oubliez pas qu'il y en a d'autres de ces lycéens armés, attendent. Et à un moment, le chef de protocole qui se trouve à côté du pilote explique au conducteur qu'il s'est trompé. Il explique au chauffeur qu'il n'a pas pris la bonne rue. À ce moment-là, la voiture s'arrête. Il y a une espèce de flottement. Évidemment, Gavrilo Princip va en profiter. Il va tirer cette fois sur l'archiduc et sur la duchesse de Hohenberg. On a le récit du comte Franz Comte Franz Aratz, qui se trouvait juste debout sur le marchepied et qui dit, et qui possédait la voiture, effectivement, et qui dit: nous roulâmes jusqu'au Leitnerbrücke, puis nous tournâmes à la hauteur de la Franz Josef Gasse. C'est à ce moment-là que le gouverneur Potiorek donna l'ordre au chauffeur de faire marche arrière pour reprendre le quai. Naturellement, la voiture resta immobilisée pour le temps de la manœuvre, durant 2 ou 3 secondes. Venu de la foule à droite, retentit alors un coup de feu tiré à bout portant, tandis que la voiture reculait, un mince filet de sang jaillit de la bouche de Son Altesse impériale jusqu'à ma joue droite. Je sortis mon mouchoir pour essuyer le sang de la bouche de l'archiduc. La duchesse dit alors: « Pour l'amour de Dieu, que t'est-il arrivé ?» Son corps s'affaissa sur le siège et sa tête se posa sur les genoux de son époux. Je ne me doutais pas à ce moment qu'elle avait été touchée et pensais qu'elle avait simplement perdu connaissance sous l'effet de la peur. J'entendis l'archiduc dire « Sofferl, Sofferl, ne meurs pas, reste pour nos enfants. » Pour empêcher que sa tête ne s'affaisse, je retins l'archiduc par le col de son uniforme et lui demandai « Votre Altesse impériale souffre-t-elle beaucoup ?» Il répondit distinctement « Ce n'est rien. » Tandis que son visage se crispait un peu, perdant progressivement conscience, il répéta 6 ou 7 fois de plus en plus bas « Ce n'est rien ». Il commença alors à râler, d'abord faiblement, puis plus fortement, et finalement tous deux mourront au château de Connac en arrivant. Après quand même une agonie qui dans les deux cas aura été extrêmement pénible. Et tout cela, si je puis dire, comme le dit Jean-Paul Bled, vers 11h tout est consommé. Et tout ça à cause d'un lycéen de 19 ans. Qui se méfierait d'un lycéen de 19 ans? Celui-ci en tout cas, en vidant son revolver à bout portant, vient de donner le signal d'un des plus grands conflits de tous les temps. Nous sommes en ligne avec Jean-Yves Le Naour qui vient de publier 1914, La Grande Illusion chez Perrin. C'est le premier ou l'un des tout premiers des nombreux ouvrages, à mon avis, qui vont fleurir pour célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Bonjour Jean-Yves Le Naour.
Bonjour.
Cet attentat de Sarajevo, évidemment, est toujours identifié comme le point de départ de la Première Guerre mondiale. Est-ce juste d'analyser les choses de la sorte ?
Bien sûr que c'est juste. Alors, évidemment, on peut chercher des causes profondes. Longtemps, on a dit voilà, il y a des causes immédiates et puis des causes profondes. Et en quelque sorte, l'attentat de Sarajevo, c'est l'étincelle dans le tonneau de poudre qui ne demandait qu'à exploser.
Et puis, il y avait ce système d'alliance, évidemment, qui va ensuite faire un effet domino, bien sûr.
Voilà, exactement. Mais des crises, il y en avait eu auparavant. Alors la question, c'est plutôt pourquoi celle-ci, on n'a pas voulu la régler. C'est plus qu'un prétexte, finalement.
Alors,
on n'a pas voulu la régler, cette crise.
Je disais tout à l'heure qu'il y avait eu pas mal de signes du destin, en quelque sorte. Cet attentat avait été, en quelque sorte, annoncé et ses protagonistes en étaient comme avertis.
Oui, l'ambassadeur de Serbie à Vienne était allé voir un ministre pour déconseiller cette visite à Sarajevo. L'évêque de Sarajevo lui-même avait déconseillé cette parade dans la capitale bosniaque. C'était quand même le 28 juin, le jour du Vidovdan, le jour de la fête nationale serbe.
C'était peut-être pas très habile d'avoir choisi ce jour-là.
Mais oui, bien en plus, François Ferdinand, il est bravache, il a du courage, mais c'est un courage qui touche un peu à l'inconscience. Vous voyez, il aurait très bien pu choisir une voiture fermée, il choisit délibérément une voiture ouverte, malgré toutes ses menaces, il veut montrer qu'il n'a pas peur. C'est ça, il veut montrer à tout le monde, il est chez lui, il est l'héritier, il est dans l'Empire austro-hongrois, il veut montrer qu'il n'a pas peur. Mais il aurait quand même été un peu plus averti de choisir une voiture fermée.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est, nous en parlions avec Jean-Paul Bled tout à l'heure hors antenne, mais c'est qu'au départ, Sophie Chotek, habituellement en tout cas, elle n'accompagnait pas son mari. Hein. La duchesse de Hohenberg ne faisait pas partie des déplacements officiels. Et là, cette fois, elle accompagne l'archiduc dans son voyage. Et au moment de sortir de l'hôtel de ville, il lui conseille à elle de se rendre directement au château. Il la rejoindra, dit-il. Et non, elle dit, soit je suis avec vous, soit je n'y suis pas. Mais en tout cas, si vous prenez cet itinéraire, j'irai jusqu'au bout avec vous. C'est vraiment le terme, jusqu'au bout.
Oui, 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 c'est une grande histoire d'amour. Hein. Votre invité l'a dit. C'est un couple véritablement, un couple fusionnel. Et que vous avez rappelé tout à l'heure que François Ferdinand avait explosé à la mairie
parce qu'on lui a fait
un discours d'accueil, de colère, évidemment. Surtout qu'il sort son discours et le papier qu'on lui tend est taché du sang, hein, justement, d'un de ses officiers d'état-major. Donc il explose. Et la seule personne qui est capable de le calmer, c'est Sophie, hein, qui lui dit, bon, ils sont pour rien, calme-toi, etc. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'elle lui dit à l'oreille. Il se calme aussitôt. C'était la seule personne qui avait véritablement de l'influence sur lui.
Alors
elle ne veut pas l'abandonner. Elle ne veut absolument pas l'abandonner.
Ce que l'on peut se demander, et je poserai dans un instant la question aussi à Jean-Paul Bled, c'est, en faisant un peu d'histoire-fiction, et si les balles de principe n'avaient pas atteint leur but, et si l'archiduc François Ferdinand n'avait pas été assassiné à Sarajevo, est-ce que le sort du monde en aurait été changé, ou est-ce que de toute façon l'Autriche avait bien l'intention, un jour ou l'autre, de faire la guerre à la Serbie ?
L'Autriche avait l'intention de faire la guerre à la Serbie. En 1913, déjà, elle avait été tentée à deux doigts, hein, de déclarer la guerre à la Serbie. C'est l'Allemagne qui l'avait retenue. Guillaume II avait dit à François-Joseph, vous faites trop de bruit avec mon sabre. Et là, effectivement, c'est une merveilleuse occasion de régler son compte, à la Serbie. Mais je vais dire, si François Ferdinand n'avait pas été tué, la guerre n'aurait pas nécessairement été évitée. Il faut savoir que le 12 juin, il y a une petite anecdote, là, c'est le 12 juin, il reçoit de façon
plus tôt,
secrète
oui.
à Konopist, au château de Konopist en Bohême, Guillaume II, son ministre de la guerre von Falkenhayn, qui sera le chef de l'armée allemande, qui reçoit également l'amiral Tirpitz, le chef de la marine, et officiellement ils sont venus pour admirer les roses, la roseraie du château de François Ferdinand en Bohême. Évidemment, ils ne sont pas venus pour ça, ils ont parlé sans doute de l'éventualité d'une guerre européenne. Et quand Guillaume II apprend la mort de François Ferdinand, il a ces mots, quel malheur, tout est à recommencer. À recommencer, ça veut donc dire qu'il s'était mis d'accord sur quelque chose. Donc sa mort a entraîné la guerre, mais s'il n'était pas mort, c'est pas pour autant.
On aurait sans doute eu la guerre aussi. Finalement, oui. Vous dédramatisez un peu l'événement, Jean-Yves Le Naour. Merci beaucoup. Je rappelle le titre chez Perrin de votre ouvrage, tout simplement 1914, La Grande Illusion.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Un extrait sur Europe 1 de la 5e symphonie composée par Gustav Mahler, Franck.
Ce qu'il faut rappeler, Jean-Paul Bled, c'est qu'alors que leurs parents sont en train de se faire tuer à Sarajevo, il y a des enfants qui les attendent et qui ne les verront jamais bien sûr revenir.
Et durant ce voyage, tous les jours, Sophie, François Ferdinand ont adressé des télégrammes à leurs enfants. Quelques jours avant le 28, ils se sont promenés dans le bazar de Sarajevo et ont fait des achats pour les enfants. La vérité, c'est que François Ferdinand a été à la fois un excellent mari et un excellent père de famille. Il ne s'est jamais emporté contre ses enfants, alors que Dieu sait s'il s'est emporté dans d'autres circonstances.
Oui, il avait la colère facile.
Il avait la colère facile. Eh bien, il ne s'est jamais emporté contre ses enfants. Et c'est un trait qui est véritablement à retenir. Et il avait le souci, il passait pas mal de temps avec eux. Le matin, par exemple, il prenait son petit déjeuner avec eux. Lorsque ça lui était possible, il prenait ses repas avec eux. Donc il avait une véritable vie de famille, ce qui était non pas unique, mais tout de même assez rare chez les Habsbourg à cette époque.
Oui, c'est assez révolutionnaire en quelque sorte. Il est très moderne de ce point de vue.
Bien sûr.
Alors, je posais tout à l'heure la question à Jean-Yves Le Naour. Évidemment, je vous la pose à vous, Jean-Paul Bled. Que serait-il arrivé si l'archiduc François Ferdinand n'était pas mort à Sarajevo? Alors lui, il nous a répondu du point de vue de la guerre. Est-ce que la guerre aurait eu lieu ou non? Ce qui serait intéressant aussi, c'est de savoir ce qui aurait pu se passer si François Ferdinand avait pu succéder à François-Joseph. François-Joseph meurt en 1916, je rappelle.
Oui. Alors, je veux dire, il y a deux cas de figure. Le premier, qui est parfaitement plausible, où François-Joseph serait décédé avant le 28 juin 14. Et c'est pas une hypothèse d'école, parce que il a été très malade au printemps. C'est tellement vrai qu'un train était prêt à transporter François Ferdinand de Bohême à Vienne. Mmh. Bon, si cela avait été le cas, à ce moment-là, il ne serait certainement pas rendu à Sarajevo. Il aurait été accaparé par les tâches de nouveau souverain et la réorganisation de la monarchie. Bon, là, ce serait posé le problème.
Mais il s'était entendu déjà avec le Kaiser Guillaume pour on ne sait trop quoi. Donc, c'était quand même...
Je serais peut-être moins affirmatif. Il semble qu'à Konopiste, les 12 et 13 juin, on a parlé de l'actualité, bien sûr, internationale. On a surtout parlé de la Roumanie, parce que la Roumanie était l'alliée de ces deux États centraux, et prenait ses distances, se rapprochait de la Russie, et surtout de cela, beaucoup plus que de la Serbie. Donc, dans cette première hypothèse, le problème de la relation avec la Hongrie, un conflit potentiel avec la Hongrie. L'autre hypothèse, il survit à l'attentat. Bon, à ce moment-là, je pense que le mécanisme se serait enclenché. Car même si le prince héritier n'avait pas été tué, il n'empêche...
Il y aurait eu ultimatum.
Oui, parce que la situation aurait été différente des situations précédentes, des guerres balkaniques de 1912-1913, où là, François-Joseph et François Ferdinand ont retenu leur chef militaire. Mais dans le cas concret, c'était un affront, évidemment, énorme, fait à la monarchie, même si le prince héritier n'était pas décédé. Et je pense que dans cette hypothèse, eh bien, le mécanisme serait enclenché et qu'on serait allé jusqu'à la guerre, comme on l'a connu avec la mort de François Ferdinand.
Il y a peu de chances que les conjurés, hein, là, les petits nationalistes de la main noire, aient eu conscience de l'extraordinaire impact du geste qu'ils allaient commettre.
Ah,
quel qu'en fut l'issue, puisque ce que vous nous dites, c'est que même si l'archiduc avait survécu, il est probable que ça n'aurait rien changé quant à l'enchaînement des circonstances.
Hein. Oui.
Alors, la surprise, et nous allons finir sur cette image, si vous voulez, je dis cette image parce que j'ai à l'esprit le très beau film que Frédéric Mitterrand avait consacré à toute cette période il y a maintenant longtemps, c'était en 1996, ça s'appelait Les Aigles Foudroyés, et on voyait justement le cortège funèbre de l'archiduc François Ferdinand et de la duchesse de Hohenberg rentrer à Vienne. La cour de Vienne avait fait les choses à minima, le but était qu'on expédie ses obsèques le mieux et le plus vite possible. D'ailleurs, on n'a pas constaté de douleur très visible sur le visage de l'empereur François-Joseph, qui était peut-être plus ou moins débarrassé de cet héritier avec lequel il avait toujours eu finalement du mal à s'entendre, alors qu'il aimait tant l'autre héritier, celui qui va donc lui succéder, Charles, le mari de Zita de Bourbon-Parme. Et donc, on voit ce cortège arriver au milieu d'une foule qui va néanmoins manifester son attachement à François Ferdinand, et cet hommage de Vienne à François Ferdinand, c'est peut-être en quelque sorte le plus beau des hommages, celui auquel lui aurait été le plus sensible.
Certainement.
Il y avait là sur le parcours, hein, tout Vienne, tout le monde était venu. Ça a été un moment sans doute assez émouvant.
On peut-être ajouter que les choses ont failli connaître une fin presque dantesque, parce que ils n'ont pas été enterrés à Vienne, ils sont enterrés à Artstetten, dans le château de famille. Là, il faut traverser le Danube. Il y a un orage terrible et les cercueils ont failli verser dans le Danube et disparaître engloutis.
Jean-Paul Bled, François Ferdinand d'Autriche, c'est une grande biographie chez Talendier. Merci beaucoup Jean-Paul Bled d'avoir ressuscité ce personnage dont la mort a eu de si tragiques conséquences.